Je suis encouragée par la parole qui a été donnée ce matin au travers de la bouche de Romana. Je suis encouragée d'avoir entendu cette parole parce que ça nous encourage à persévérer. Parce qu'il est question de la présence de Dieu, il est question d'entrer dans la présence de Dieu, il est question d'aller à l'essentiel, il est question d'aller dans les plans du Seigneur, que l'Église comprenne sa mission. C'était un encouragement pour notre Église. C'était un encouragement où le Seigneur nous dit que nous avons sa faveur, que nous sommes dans la bonne voie et qu'il faut aller de l'avant. Et moi, ça m'encourage particulièrement parce que ça va dans la ligne de ce que je vais partager ce matin. Alors que le Saint-Esprit vous donne un esprit de révélation, qui vous le fasse connaître, qui vous fasse connaître sa parole et que vous puissiez comprendre au-delà de mes mots, parce qu'il risque d'être bien faible, mais que vous sachiez recevoir du Seigneur ce que lui a à vous dire. Et justement, parfois on ne comprend pas forcément ce qui se passe, et on le voit dans des temps de louange, il y a des personnes qui justement sont tout de suite dans la louange, et d'autres qui n'arrivent pas forcément à percevoir, et puis qui arrêtent, qui lâchent, puis qui attendent que ça passe, entre guillemets. On est tous à des niveaux différents. Et je ne sais pas où vous en êtes, vous. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir la nostalgie de grands moments passés avec Dieu. Par exemple, il y a une époque, il y avait des grands rassemblements, des grands orateurs avec une onction magnifique. Et puis, ils faisaient un appel, tout le monde était devant, ils priaient, tout le monde tombait sous la puissance du Saint-Esprit. Il y en a qui ont connu ces choses-là. Peut-être que vous avez la nostalgie de quand vous avez reçu le don du Saint-Esprit, le don de parler en langue. Peut-être que vous avez la nostalgie d'un temps où vous aviez une intimité avec le Seigneur tellement, tellement forte, un super temps de prière régulier. Puis c'est plus là. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous vivait un peu de la frustration ou du découragement ou c'était mieux avant, quoi. Eh bien, ce sont justement ces sentiments que pointe le Seigneur au travers de la bouche du prophète Agée, au début du deuxième chapitre. Nous avons vu le premier chapitre il y a 2 semaines. Souvenez-vous de l'histoire, on est en 520 avant Jésus-Christ. On est gentiment à la fin de la période des rois. Le peuple a été en exil pendant 50 ans à Babylone à cause de sa désobéissance. Il est revenu il y a une quinzaine d'années. Et pendant une année, quand il est revenu à Jérusalem, il a commencé la reconstruction du temple. Mais ça a duré une année et tout le monde s'est découragé, ils ont arrêté. Et il y a Agée qui leur dit, mais est-ce le temps pour vous de vous occuper de vos propres maisons, d'en faire des maisons de luxe alors que la maison du Seigneur est en ruine ? Et ça a duré pendant 15 ans. Pendant 15 ans, le peuple n'a rien fait. Et voilà que Agée vient avec une parole d'encouragement. Une parole d'encouragement pour que le peuple se remette à reconstruire le temple. Et c'est une parole qui a vraiment touché le peuple. Il s'est repenti et il s'est remis à l'ouvrage. Et la parole d'aujourd'hui, l'oracle d'Agée, il arrive à peu près un mois après le premier, un mois après la repentance du peuple. Agée 2, les versets 1 à 9. Le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel se révéla par Agée le prophète en ces mots. Parle à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et au reste du peuple, et dis-leur. Quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant, telle qu'elle est? Ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel, fortifie-toi, Josué, fils de Jotsadak, souverain sacrificateur, fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez, agissez, car... Je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous, ne craignez pas. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Amen. À l'occasion de la première prophétie d'Agée, la nation avait besoin d'une parole qui touche directement sa conscience, à cause de la négligence et de la sécheresse spirituelle. Et aujourd'hui, le peuple a besoin d'une parole d'encouragement, de réconfort, pour fortifier les mains du peuple, fortifier leur cœur, fortifier leur but, leur motivation. Il fallait que le peuple comprenne. Le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel se révèle par Agée le prophète, à qui, de nouveau, ces trois catégories. Zorobabel, gouverneur, autorité civile. Josué, fils de Jotsadak, sacrificateur, autorité religieuse. Et tout le peuple. Autrement dit, toute catégorie confondue. Tout le monde est concerné. Et trois questions. Trois questions rhétoriques, c'est-à-dire stratégiques. Des questions pour aller titiller les cœurs. Quel survivant? Qui se souvient de la gloire de ce temple, c'est-à-dire le temple que Salomon avait construit? Mais qui peut se souvenir? Ça fait 65 ans que les gens sont partis en exil. Donc ceux qui peuvent se souvenir, et c'est qu'ils ont plus que 65 ans, c'est qu'au minimum ils étaient un enfant, disons, de 5 ans quand ils sont partis à Babylone. Et il y a beaucoup de personnes qui sont nées à Babylone, qui n'ont jamais vu ce temple, qui ont entendu parler de ce temple. Alors il y a cette question, mais c'est qui parmi les anciens? Qui a vu ce temple dans sa gloire première? Et aujourd'hui, comment vous le voyez? Comment vous le voyez? Est-ce qu'il est rien à vos yeux? Autrement dit, il est en train de leur dire, mais est-ce que vous ne seriez pas en train d'être un sujet de découragement pour les plus jeunes? À force de dire, mais c'était tellement mieux avant. C'était tellement mieux, il était tellement glorieux ce temple. En même temps, c'est vrai que le temple, il était glorieux avant. Souvenez-vous, c'est David qui a délégué à Salomon, son fils, de construire le temple. David aurait voulu le faire. Jusque-là, il y avait une tente, il y avait le tabernacle. Et David s'est dit, mais non, Dieu ne peut pas habiter dans une tente, alors que moi, je suis dans un palais. Il lui faut un temple somptueux. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a joué de ses relations. Il a fait venir des cèdres du Liban. Il s'est occupé des pierres taillées. Il a fait venir des métaux précieux. Il a fait venir tout ce qu'il fallait pour que Salomon puisse mener ce projet de bâtir un temple à l'Éternel à exécution. Et voilà qu'aujourd'hui, si vous vous souvenez dans Agée 1, le peuple a dû monter lui-même à la montagne, couper des arbres, faire des poutres, des planches et descendre ce bois de la montagne pour rafistoler le temple. Donc la différence, elle est de taille. Et en plus de ça, ça fait seulement un mois que le peuple s'est repenti et qu'ils ont repris les travaux. Donc évidemment que c'est difficile de se réjouir de quelque chose de beau, de glorieux. Et non seulement ça fait un mois, mais c'est le 21e jour du 7e mois. Et ce 7e mois, c'est un mois où il y a trois fêtes. La fête des trompettes, la fête des expiations et la fête des tabernacles. Et durant ces trois fêtes confondues, il y a 4 jours chômés. C'est-à-dire qu'il y a 4 sabbats supplémentaires. Il y a 4 convocations solennel où les gens n'ont pas le droit de travailler. Alors imaginez, vous rajoutez 4 sabbats puisque ça dure un mois, donc en fait ça fait 8 sabbats dans un mois, donc autrement dit qu'il ne restait pas beaucoup de temps pour reconstruire ce temple. Alors les gens sont certainement découragés. Mais ce n'est pas pour rien si Agée parle le septième jour du 21e mois. Le 21e jour du septième mois. Ce septième mois et ce 21e jour correspond au septième jour de la fête des tabernacles. C'est la fin de la fête des tentes. Et cette fête des tentes, c'est une fête de réjouissance, c'est une fête de reconnaissance, c'est la fin de l'année agricole. Alors les gens doivent construire des cabanes, y vivre pendant une semaine, et ces cabanes, elles sont décorées. Elles sont décorées avec tous les fruits de la terre, avec les fruits, avec les légumes, avec la vigne, avec l'huile, avec le blé. C'est une belle décoration pour se réjouir de la faveur, de la fidélité du Seigneur. Nous pouvons lire par exemple dans Deutéronome, enfin, cette fête vous la voyez dans Lévitique 23-34, où il y a Moïse qui reçoit cette loi et puis les prescriptions précises. Mais c'est repris dans Deutéronome. Je suis dans Deutéronome 16, les versets 13 à 17. Tu célébreras la fête des tabernacles pendant 7 jours. Quand tu recueilleras le produit de ton aire et de ton pressoir, tu te réjouiras à cette fête, toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, et le lévite, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes. Tu célébreras la fête pendant 7 jours en l'honneur de l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu que choisira l'Éternel. À l'époque, le tabernacle il se déplaçait. Voilà pourquoi le lieu n'est pas fixe. Car l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans toutes tes récoltes et dans tout le travail de tes mains, et tu te livreras entièrement à la joie. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans Agé 1, il était question que Dieu avait soufflé sur les récoltes. Dieu avait fermé le ciel. Il n'y avait même plus de rosée. Donc les récoltes, elles sont assez dérisoires cette année-là. Alors, pas de récolte, ou pratiquement rien. Un temple rafistolé, et puis le peuple qui est titillé. Mais comment tu le vois, ce temple? Pourquoi t'es un sujet de découragement? Tu ne devrais pas. C'est difficile de comprendre. Mais où veux-tu en venir, Seigneur? Eh bien, c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Si on regarde à l'état du monde, ouf. Si on regarde à notre état dans le monde, ouf. Si je regarde à mes finances, si je regarde à mes relations, si je regarde à mon comportement, si je regarde à ma vie de prière, si je regarde à ma consécration, j'en suis où? C'est bien des fois de se laisser interpeller. Est-ce que je suis un sujet d'encouragement ou de découragement? Est-ce que je me dis, bon, de toute façon, le monde, il va à sa perte? Donc voilà quoi. Ou alors, est-ce que je me dis, oui, le monde va à sa perte, mais c'est écrit, je le sais, et je sais que j'ai un rôle à jouer, et je sais qu'il y a des choses glorieuses qui m'attendent, et qui attendent l'Église. Alors je veux être un sujet d'encouragement, et je veux persévérer. C'est pas pour rien si Agé a choisi la fête des tentes pour donner son oracle, parce qu'il y a quelque chose qu'il faut comprendre. C'est comme si cette fête, même si elle n'est pas nommée, c'est comme si elle est en toile de fond de tout ce qu'il dit. Je suis toujours dans Deutéronome 16, le verset 16. « Trois fois par année, tous les hommes d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. » On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Chacun donnera ce qu'il pourra selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, lui aura accordées. Est-ce que vous avez fait attention? Lors de la fête des tabernacles, lors de cette fête de pèlerinage où on vient vers le Seigneur, c'est une fête où justement on vient vers le Seigneur. C'est pas une fête qu'on vit simplement ensemble, c'est pas une fête où on reste chez soi. À l'époque, pour rencontrer le Seigneur, il fallait aller à son lieu de rencontre, vers le tabernacle. C'est une fête où on va dans la présence du Seigneur. Et c'est là qu'il faut comprendre. La présence du Seigneur, elle est omniprésente dans tout ce texte. Alors si tu te sens découragé, si tu te dis « mais ma vie, où elle en est ?» essaye de te dire qu'il y a peut-être quelque chose par rapport à la présence du Seigneur que tu dois vivre, que tu dois découvrir. Je retourne dans Agé. Verset 4. « Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Jotsadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez. Car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous êtes sortis de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas. » Encore une fois, autorité civile, autorité religieuse et tout le peuple, mais que chacun se fortifie. Fortifiez-vous, parce que je suis au milieu de vous, parce que mon esprit est au milieu de vous, parce que je suis fidèle à l'alliance que j'ai faite. Je suis toujours le même, je ne vous abandonne pas, goûtez à ma présence, retrouvez ma présence. Fortifie-toi. C'est une parole qui a déjà été donnée il y a très longtemps. Elle a été donnée à Josué par le Seigneur. Quand Moïse est décédé et que Josué a dû conduire le peuple pour la conquête du pays promis, fortifie-toi. Et aujourd'hui, dans ce texte, c'est le peuple qui revient dans son pays promis. Mais là où c'est encore plus subtil, fortifie-toi et travaillez. Le terme qui est utilisé, c'est « faites ». Alors il fallait bien le traduire d'une manière un peu plus tangible. Faites, œuvrez, agissez, fortifie-toi et agis. Voilà ce que ça veut dire. Eh bien, fortifie-toi, agis, ce sont les mêmes termes que David a dit à son fils Salomon pour la construction du temple. Et là, on est dans Chronique. Chronique 28, verset 10. Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi, afin que tu bâtisses une maison qui serve de sanctuaire. Fortifie-toi et agis. Et là, on est dans la reconstruction de la maison de Dieu, de l'habitation de Dieu. Fortifie-toi, peuple entier, et agis. Sois actif. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, quand c'est que Salomon a fait la dédicace du temple. Quand il a fait la dédicace du temple, une fois que ce temple a été construit, la nuée de l'Éternel est venue, elle a rempli le temple. Ça veut dire que la présence de Dieu a tellement rempli le temple que le peuple ne pouvait presque plus se tenir dans sa présence, tellement c'était glorieux. C'était lors de la fête des tabernacles. Encore une fois, la présence de Dieu qui est au milieu de son peuple. Et ça, c'est pour nous aujourd'hui. C'est pour nous encore aujourd'hui. Et regardez verset 5, « Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous êtes sortis d'Égypte. Ne craignez pas. » Cette fête des tabernacles, c'est le souvenir de la sortie d'Égypte. Pourquoi il faut faire des tentes, des cabanes? Pourquoi c'est la fête des tentes? Parce que quand le peuple est sorti d'Égypte, il a vécu dans des tentes, dans des habitations extrêmement précaires, dans un désert pendant 40 ans. Mais pendant 40 ans, Dieu a pourvu. Voilà pourquoi c'est une fête de réjouissance et de reconnaissance. Dieu a donné la manne, Dieu a donné l'écaille, Dieu a donné l'eau du rocher. Il a même fait trembler la terre, il a fait trembler la montagne. Et Moïse a reçu la loi, les prescriptions pour la construction du tabernacle. Ils ont construit ce tabernacle, cette tente, et Dieu a donné sa présence par la nuée, le jour, et par la colonne de feu la nuit. Et c'est là que Dieu se rencontrait avec son peuple. On peut le lire dans l'Exode. Exode 29, verset 43. « Je me rencontrerai là avec les enfants d'Israël, et ce lieu sera sanctifié par ma gloire. Je sanctifierai la tente d'assignation et l'autel. Je sanctifierai Aaron et ses fils, les sacrificateurs, pour qu'ils soient à mon service. » Dans le sacerdoce, j'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je serai leur Dieu. Ils connaîtront que je suis l'Éternel, leur Dieu, qui les ai fait sortir du pays d'Égypte pour habiter au milieu d'eux. Je suis l'Éternel, leur Dieu. » Et là encore, Agé rappelle cet événement. Pendant la fête des tentes, mais souvenez-vous que je suis au milieu de vous. Souvenez-vous que quand je suis au milieu de vous, ma gloire est avec vous. Souvenez-vous que je pourvois à tous vos besoins. Vous vous souvenez, on en a parlé la dernière fois, Matthieu 28, 20, Jésus nous a dit, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Avant de partir, il nous a dit, « Je ne vous laisserai pas orphelins. » Il nous a promis l'envoi de son Saint-Esprit. Et nous savons aujourd'hui que le Saint-Esprit est là. Nous l'avons tous reçu. Acte 1, 8, « Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. » Nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Dieu est toujours le même. Il est toujours fidèle. Quand Agé parle au peuple pour dire « Mais fortifie-toi, souviens-toi, tu as vécu dans des tentes pendant 40 ans. » En fait, il parle d'un événement qui a eu lieu il y a 1000 ans. Alors les gens, en fait, ils n'ont pas vraiment le souvenir d'avoir vécu pendant 40 ans dans le désert. Mais ils en ont tellement entendu parler. Et en même temps, ils portent ça dans leur gêne. Et ça, on ne peut pas le leur enlever. Parce que leurs ancêtres de sang, ils l'ont vécu. Et ils ont été marqués. Ça a été inscrit dans leur patrimoine génétique. Ils le portent en eux. Ils ont été esclaves en Égypte. Ils ont été délivrés par le bras étendu du Dieu Tout-Puissant. Et Dieu a pourvu. Et Dieu a été fidèle. Alors, fortifie-toi. Reconstruis. Reconstruis le temple. Nous avons tous notre propre temple à reconstruire. Nous avons tous notre propre vie spirituelle à construire, à développer. Et nous avons l'Église aussi à reconstruire, à construire, à fortifier, et bien au-delà. Il ne s'agit pas de passer une heure par jour dans la prière. Il ne s'agit pas de lire un ou deux chapitres de la Bible tous les jours. Il s'agit d'entrer tous les jours dans la présence de Dieu. Vous comprenez la différence ? Vous pouvez relire Matthieu 6, quand tu entres dans ta chambre, ferme la porte, et ton Dieu qui est là et qui voit dans le secret, il entendra tes prières. Chaque fois que tu t'arrêtes pour entrer dans la présence de Dieu, il est là. La première chose à faire, c'est d'en prendre conscience. Si tu n'en prends pas conscience, ça ne sert à rien. Tu vas faire des prières intellectuelles, mais ton cœur n'y sera pas. Je ne sais pas si vous avez déjà parlé à quelqu'un qui ne vous écoute pas. Ou je ne sais pas si quelqu'un vous a déjà parlé, puis vous avez la tête tellement ailleurs que... Oh, qu'est-ce qu'il m'a dit ? Comprenez ? On est souvent dans ce genre de choses dans nos prières. On prie, puis on pense à autre chose. On prie, puis on récite. On prie parce qu'il faut. Mais ce n'est pas ça. On ne va pas loin avec ça. Prends juste conscience que Dieu est là. Accueille le Saint-Esprit dans ton cœur, parce qu'il est là. Et quand tu commences à développer ta relation avec le Saint-Esprit, tu te rendras compte que ta relation avec Jésus et avec le Père est en train de se développer. Plus je communique avec le Saint-Esprit, plus je ressens les sentiments qui sont en Jésus. C'est quelque chose que j'expérimente. Et plus ça me donne de la puissance dans ma prière. Parce que tout à coup, je suis vraiment dans les lieux célestes. Vraiment, c'est ça, s'approcher du trône de la grâce. Parce qu'on a le Saint-Esprit qui en Jésus nous permet d'aller auprès du Père. Que le Seigneur nous donne cette révélation d'entrer dans sa présence. Mais ce n'est pas fini. On doit améliorer notre relation avec Dieu, on doit développer cette intimité, c'est important qu'on puisse vivre la présence de Dieu, on ne sera plus jamais frustré si c'est ce qu'on vit. Mais il y a un projet beaucoup plus grand. Il y a un projet beaucoup plus grand pour nos propres vies, mais pour l'Église et pour le monde. Et nos vies sont inscrites dans un projet de Dieu. Et c'est là qu'il faut qu'on élargisse un peu notre vision. Il faut qu'on enlève nos œillères. Il faut qu'on relève la tête de notre nombril. C'est vraiment, vraiment important. Verset 6, Agée 2. « Car ainsi parle l'Éternel des armées, encore une fois, selon les traductions, encore un peu de temps. Encore une fois, dans un peu de temps. J'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. » Encore une fois, il va se passer quelque chose. Encore une fois, j'ébranlerai. Une première fois, Dieu a ébranlé la montagne. Quand Moïse a reçu la loi, quand il a passé ses 40 jours de jeûne sur le Sinaï, la montagne a tremblé, il y avait des éclairs, du tonnerre, le peuple n'osait pas s'approcher parce qu'il risquait de mourir. Dieu a fait un phénomène terrestre, mais surnaturel, tout a tremblé. Il a donné la loi, les prescriptions pour le culte. Et il dit « Encore une fois, je vais ébranler ». Mais je vais ébranler plus que cela. Pas seulement la terre, mais les cieux aussi, la mer et le sec. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, c'est un événement qui n'a pas encore eu lieu, mais qui va avoir lieu. Et pourtant, on est toujours dans le déjà et le pas encore. Il y a des choses qui se sont déjà passées, mais il y a un grand événement qui va venir. Et dans l'Épître aux Hébreux, on a quelques éclaircissements. Donc c'est comme si on a une prophétie qui est donnée dans les Hébreux. Au chapitre 12, à la fin du chapitre, verset 26, il est question de celui qui parle du haut des cieux, comme pour Moïse. Lui, donc Dieu, dont la voix ébranla alors la terre, et qui maintenant a fait cette promesse. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Hébreux reprend la parole d'Agée. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Il y a un événement universel, cosmique, qui va arriver. Et ce n'est pas encore fait. Mais on va dans ce sens-là. Pour ce qui est du temple, de la reconstruction du temple du temps de Agée, ça a pris 4 ans et demi pour le reconstruire. 4 ans et demi après la parole d'encouragement de Agée, le temple était construit. Les sacrifices ont repris, le culte a repris. Et qu'est-ce qui s'est passé? Une partie de ces prophéties se sont déjà passées. L'or et l'argent appartiennent au Seigneur, il a fait en sorte que cet or et cet argent affluent dans le temple. Parce qu'il y a déjà 3 fêtes de pèlerinage. Ça veut dire que 3 fois par année, les gens, toute la diaspora, tous les juifs dispersés, venaient lors de ces fêtes à Jérusalem et apportaient leurs offrandes. Donc déjà l'or et l'argent a commencé à venir. Mais il y a des gens qui ont adopté par cœur, par amour, la religion, entre guillemets, juive. Et là, c'était déjà les prémices des nations qui ont commencé à amener leur argent et leur or. Qui d'entre vous est déjà allé en Israël?
Non.
Eh bien, pour tous ceux qui sont déjà allés en Israël, il n'y a plus de temple. Le temple, il est tombé en l'an 70. Mais quelque part, vous êtes allé amener prophétiquement votre argent et votre or, vous avez dû investir pour aller là-bas. Vous comprenez? Et vous faites partie des nations. Nous faisons partie des nations. Nous qui investissons pour l'Église, que ce soit financièrement, mais que ce soit notre temps, que ce soit nos dons, que ce soit le soin qu'on se donne les uns aux autres, on est en train de faire affluer nos richesses pour le temple du Seigneur. Vous comprenez? À un moment donné, Hérode a rénové ce temple, ce deuxième temple. Et il est devenu somptueux, au point que les disciples ont dit à Jésus, « Mais t'as vu ce temple, comme il est magnifique. » Donc, l'argent et l'or sont effectivement arrivés dans ce temple. Mais en l'an 70, par Titus, un des empereurs romains, ce temple est tombé. Et depuis, ça fait 2000 ans, il n'y a plus de sacrifices. L'argent et l'or des nations, maintenant, c'est ce que nous apportons déjà par nos vies, pour tous les chrétiens, pour toutes les personnes des nations qui sont converties. Nous sommes déjà en train d'apporter nos richesses à Dieu. Mais un jour, toutes les nations, qu'elles le veuillent ou qu'elles ne le veuillent pas, un jour, toutes les nations feront allégeance à Dieu. Un jour, tout ce qui appartient à Dieu reviendra à Dieu. On est dans quelque chose de prophétique, mais dans quelque chose qui va vraiment, vraiment se passer. C'est important de le comprendre, parce que ça nous permet de comprendre dans quel projet, dans quelle histoire nos vies sont inscrites. À quoi nous sommes en train de travailler chaque fois que nous cultivons notre intimité avec le Seigneur, chaque fois que nous goûtons à sa présence, chaque fois que nous œuvrons pour lui. Ce n'est pas seulement pour nos propres vies, ce n'est pas seulement pour l'église de réveil de la Chaux-de-Fonds. C'est déjà pour l'église de la ville. On a un rôle à jouer pour être une bénédiction pour les églises de la ville, pour l'église de Suisse, pour l'église universelle, pour le royaume de Dieu, pour l'avancement du royaume de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous sommes le temple de Dieu. Notre église est un temple parce que la présence de Dieu est là. Et le Seigneur, semaine après semaine, il nous le confirme. Mais c'est important qu'on le comprenne pour que ce soit un encouragement pour nous. Et vous savez, quand Jésus va revenir, il n'y aura plus de temple. Quand il y aura la nouvelle Jérusalem, vous pouvez le chercher, le temple, dans l'Apocalypse, il n'y a pas. Parce que Jésus est son temple. Vous comprenez ? Le dernier temple, le dernier, la gloire de cette dernière maison, sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu, dans la présence du Seigneur, que je donnerai la paix, le shalom. Aujourd'hui, pour nous, la paix, c'est l'absence de guerre. La paix, c'est le calme. Mais le shalom, la paix au sens de Dieu, c'est une plénitude, c'est une complétude, c'est un accomplissement de paix, de bien-être spirituel, mental, émotionnel, relationnel, physique, matériel. C'est un plein accomplissement de paix. Chaque fois que vous dites « Shalom, Shalom Alerem », que la paix soit avec vous, que la paix soit sur toi. Seigneur, donne-lui la paix qui surpasse toute intelligence. C'est une paix qui est l'accomplissement de Dieu, quand on sera complètement réuni avec lui, complètement restauré, complètement transformé, complètement guéri, complètement délivré. Nous travaillons à des temps glorieux. C'est important de le comprendre, que ça vous encourage, que ça vous encourage chaque fois que vous apprenez quelque chose du Seigneur, chaque fois que vous vivez quelque chose de plus grand avec lui, vous êtes en train de faire avancer le royaume de Dieu. Comprenez dans vos lieux de travail que vous êtes une lumière, vous êtes porteur de cette présence de Dieu et que vous êtes en train de travailler à l'avancement du royaume de Dieu, déjà juste par votre présence, juste parce que vous êtes un instrument de paix, juste parce que vous pouvez amener vos collègues dans le secret au pied de la croix. Juste parce que vous pouvez être un sujet de bénédiction, simplement. Juste parce que vous pouvez être une oreille quand quelqu'un vous parle. Pas pour aller l'assommer de versets de l'Évangile pour dire « Dieu t'aime », ça ne marche pas. Mais juste un cœur à cœur, juste qu'il puisse voir votre amour. Quand c'est l'amour qui déborde, les cœurs sont touchés. Vous êtes en train d'apporter votre or et votre argent pour faire avancer le royaume de Dieu. Alors c'est vrai, notre monde va mal. Mais les temps qui nous attendent, c'est des temps de gloire. Amen. Et comme l'a dit Reed tout à l'heure, il ne faut pas se relâcher. Il ne faut pas se relâcher. Comprenons. Tu ne sais pas comment faire pour entrer dans la présence de Dieu. Tu ne sais pas comment faire pour avoir un temps qui vaille la peine. Comment faire? Eh bien, ce n'est pas compliqué. Commence juste à le louer, à l'adorer. Simplement, tu remercies le Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit pour ta présence, ta douce présence. Comprenez qu'il est doux et tout de suite déjà ça vous calme. Et ensuite vous commencez à adorer le Seigneur. Adorez-le pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il est, pour sa gloire. Et essayez de voir les paroles que vous dites. Voyez la gloire, voyez la majesté, voyez la lumière. Et le vocabulaire va venir. Demandez au Saint-Esprit, mais crée en moi la louange, crée en moi l'adoration. Et simplement, vous êtes dans un moment comme ça. Peut-être que ça s'arrêtera là, mais vous aurez passé un temps dans la présence du Seigneur. Et peut-être que son esprit va vous conduire plus loin. Peut-être que vous allez entrer dans un moment de repentance, ce n'était pas du tout prévu. Peut-être que vous allez entrer dans un moment d'intercession pour une personne, une situation. Peut-être que vous allez entrer dans un moment de supplication. Peut-être que vous allez lui demander des choses pour votre vie. Réclamer, enfin j'aime pas ce mot réclamer, parce que à qui est-ce qu'on s'adresse? On ne réclame pas à Dieu. Mais c'est plutôt supplier, c'est vraiment ça. Mais supplier, Seigneur, mais je ne peux pas rester dans cet état-là. Élargis l'espace de ma tente. Étends mes limites spirituelles, remplis-moi. J'ai besoin de révélation, j'ai besoin de comprendre ton amour. J'ai besoin que ton amour me transforme moi-même, parce que si je suis transformée, ça va déborder, je pourrai aimer. Mais par moi-même, je n'y arrive pas. Et ça devient des prières de supplication. Ce sont des prières qui montent, qui sont recueillies par le Seigneur. Et le Seigneur répond. Parfois, il va répondre sur l'instant. Mais parfois, c'est dans les jours qui viennent ou les semaines qui viennent. Ayez juste confiance. Prenez juste le temps de goûter à la présence de Dieu et comprenez dans quoi est-ce que Dieu vous a placé, dans quelle génération il vous a placé, vous avez un rôle à jouer et Dieu vous soutient. Dieu est fidèle à son alliance, comme il a soutenu le peuple hébreu du début jusqu'à aujourd'hui, il le soutiendra jusqu'à la fin. Pareillement, il est fidèle à l'alliance qu'il a faite avec vous. À la croix. Alors que le Seigneur nous encourage. Seigneur, merci. Seigneur, merci parce que tes plans sont tellement grands. Seigneur, quand on plonge les regards dans ta parole et que tout à coup les choses s'éclairent, tout à coup on voit tes projets qui sont tellement grands, tellement plus grands que ce qu'on peut imaginer. On se sent tellement petit, insignifiant et parfois impuissant. Mais moi, je te demande de venir à notre secours. Je te demande pour chacun d'entre nous de nous donner un esprit de révélation qui nous fasse comprendre et connaître ces choses que tu es en train de préparer. Fais-nous connaître, Seigneur, les choses du ciel. Je te demande de nous donner un esprit de révélation qui ouvre nos yeux spirituels, que nous puissions voir ta gloire, que nous puissions avoir soif de ces moments que nous passerons dans ta présence, que tout esprit de crainte et de peur s'en aille, parce que devant toi il n'y a pas de peur, parce que tu as payé le prix fort pour chacune de nos vies. Alors je te demande de fortifier nos cœurs. Je te demande d'envoyer un esprit d'encouragement pour chacun d'entre nous, pour chacun de mes frères et sœurs ici présents. Je te demande, Seigneur, un esprit d'encouragement. Fortifie chacun. Brise encore les verrous de fer. Ouvre les portes des reins. Enlève les résistances. Et que chacun puisse vivre des moments d'intimité réguliers avec toi. Merci de nous avoir choisis. Merci parce que c'est par grâce. C'est seulement par grâce. Seigneur, merci. Et que ta paix, Que ta paix remplisse les cœurs en abondance, Jésus. En attendant la paix que nous vivrons pleinement avec toi lors de ton retour, glorifie encore ton nom, Seigneur.